Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la sainte sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour amis auditeurs, ravi de vous retrouver en ce dimanche 26 décembre 2021. Nous allons vous présenter tout de suite le journal, suivi d'un commentaire politique. Échec et mat de l'axe Israël-US, comment grand prophète 17 a choqué et désarmé Israël. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission, merci de votre écoute. De ce journal, le président Raïssi promet la réponse militaire ferme de l'Iran aux actions hostiles. La commission mixte du GCPOA se réunira lundi à Vienne. Et puis l'autorité palestinienne appelle la communauté internationale à protéger les Palestiniens sans défense face aux atrocités israéliennes. C'était les principaux titres que nous allons tous y développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président Raïssi met en garde contre la réponse militaire ferme de l'Iran aux actions hostiles. Le président iranien Ebrahim Raïssi a averti les ennemis que toute action belliqueuse entraînerait une réponse si décisive des forces militaires iraniennes qu'elle entraînerait un changement significatif dans les équations stratégiques. Dans un message publié samedi, le président Raïssi a félicité le corps des gardiens de la révolution islamique CGRI pour avoir lancé un exercice militaire massif dans le sud de l'Iran. Saluant les forces du CGRI pour avoir protégé la sécurité des nations iraniennes et régionales en même temps, le président a déclaré que le jeu de guerre Payambar Azam 17, le grand prophète, était une manifestation claire de la détermination et de la capacité de l'Iran à défendre ses intérêts et la sécurité. Il a également mis en garde les ennemis contre toute mauvaise action en disant « Toute initiative hostile des ennemis sera confrontée à une réponse inclusive et décisive des forces armées de la République islamique d'Iran, ce qui modifiera considérablement les équations stratégiques. » Dans des commentaires plus tôt ce mois-ci, le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Hossein Borrehi, a déclaré que le pays renforçait sans cesse ses capacités de défense. Il a également noté que les mesures, les réponses et les stratégies de l'Iran contre les mouvements hostiles ont élevé l'industrie de la défense du pays à un niveau si élevé que les puissances étrangères n'osent pas violer les territoires iraniens. La commission mixte du GCPOA, l'accord nucléaire de 2015, se réunira lundi à Vienne. L'Iran et les 5 signataires restants de l'accord nucléaire de 2015 reprendront lundi les pourparlers sur la levée des sanctions anti-iraniennes dans la capitale autrichienne de Vienne pour discuter et définir la voie à suivre. L'Iran et les 5 autres parties au GCPOA ont repris les pourparlers à Vienne le 29 novembre après une interruption de 5 mois marquant le premier cycle de négociations sous l'administration du président Raïssi et le 7e au total. Au cours du 7e cycle des pourparlers de Vienne, l'Iran a présenté 2 projets de texte qui traitent séparément de la levée des sanctions américaines et du retour de l'Iran à ses engagements nucléaires dans le cadre du GCPOA. Téhéran a également indiqué qu'il préparait un troisième projet de texte sur la vérification de la levée des sanctions. L'Iran et le groupe de pays 4+1 ont repris les pourparlers dans la capitale autrichienne le 9 décembre, après avoir été interrompus le 3 décembre, lorsque les participants sont retournés dans leur capitale pour des consultations supplémentaires sur les deux projets de proposition de Téhéran. Le très haut diplomate iranien Hossein Amir Abdollahian a déclaré jeudi que la République islamique poursuivrait avec sérieux les négociations pour la levée des sanctions imposées au pays dans la capitale autrichienne, soulignant que Téhéran ne ferait jamais de concessions excessives à la partie adverse. Hossein Amir Abdollahian souligne la nécessité d'efforts bilatéraux pour accroître le volume des échanges Iran-Oman. Le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné la nécessité d'efforts bilatéraux pour accroître le volume des échanges entre les deux pays afin qu'il atteigne le niveau des relations amicales entre les deux parties. Amir Abdollahian a fait ses remarques lors d'une réunion avec Sheikh Khalifa bin Ali bin Issa al-Harthi, sous-secrétaire aux affaires diplomatiques du ministère omanais des Affaires étrangères, à Téhéran samedi. Amir Abdollahian a déclaré que l'amélioration et l'élargissement des relations avec les pays voisins sont la priorité de la politique étrangère de l'administration Raïsi, notant que l'Iran attache une grande importance à ses liens avec Oman en tant que voisin. La diplomatie iranienne souhaite la paix pour le monde en 2022. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a félicité les chrétiens à l'occasion de Noël, espérant que la nouvelle année apporterait paix et santé. Comme beaucoup dans le monde, y compris nos compatriotes chrétiens, à une date un peu différente, célèbrent la naissance de Jésus. Je souhaite un joyeux Noël à tous ceux qui l'observent, a déclaré Saïd Khatibzadeh dans un post sur son compte Twitter ce samedi. Que la nouvelle année apporte paix, santé et prospérité, a-t-il ajouté. Le porte-parole a également joint à son message une photo du monastère Saint-Aidé, inscrite sur la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce monastère est situé dans la province iranienne de l'Azerbaïdjan occidental. Le chef de la justice iranienne et le président du Parlement de la République islamique d'Iran ont félicité pour leur part la naissance de Jésus-Christ, prophète de paix et de miséricorde. Le niveau d'eau du lac Drumia a augmenté de 120 millions de mètres cubes. Le volume d'eau du lac Drumia dans le nord-ouest de l'Iran a atteint 5 millions de mètres cubes au cours de la dernière année hydrologique qui s'est terminée le 22 septembre. Le directeur général de la compagnie régionale des eaux de l'Azerbaïdjan occidental à l'ouest de l'Iran, Yasser Rahbardin, déclarant que le volume d'eau du lac Drumia atteignait 2 670 millions de mètres cubes, a déclaré que le volume d'eau de ce lac avait augmenté de 220 millions de mètres cubes par rapport aux 10 jours précédents. L'actualité régionale, l'autorité palestinienne exige une action internationale pour protéger les Palestiniens face à la violence croissante des colons israéliens qui a fait des centaines de blessés ces derniers jours. L'autorité affirme que le régime israélien doit être tenu responsable d'une recrudescence de ce qu'il a appelé des attaques terroristes par des colons contre des Palestiniens sans défense. Par ailleurs, les factions palestiniennes appellent à la formation de comités de protection locaux à travers la Cisjordanie. Le nord de la Cisjordanie a été très tendu ces derniers jours avec des centaines de colons et de soldats attaquant les résidents palestiniens. La nuit dernière, les troupes israéliennes ont attaqué le village de Burqa, blessant près de 250 Palestiniens. Le village se trouve près du site d'une ancienne colonie appelée Homish. L'armée israélienne a démantelé cette colonie en 2005, mais maintenant les colons disent qu'ils veulent y revenir. Enfin, quelques 6300 vols ont été annulés par les compagnies aériennes à travers le monde le week-end de Noël, le variant Omicron du COVID-19 perturbant les voyages pendant les fêtes, avec notamment des pilotes en quarantaine. Selon le dernier bilan du site FlightAware, on comptait samedi près de 2800 annulations de vols, dont 970 étaient des trajets liés aux États-Unis, qu'il s'agisse de liaisons internationales ou internes. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. échec et mat de l'axe Israël-US, comment grand prophète 17 a choqué et désarmé Israël. Les officiers israéliens qui disent s'être focalisés, souffle coupé en 5 jours de manœuvre aérospatiale navale terrestre choc du CGRI, organisé dans une zone de plusieurs millions de kilomètres entre le golfe Persique d'une part et les déserts de Koshan prédisparants de l'autre, en passant par les îles stratégiques du sud iranien, Abu Musa, à 70 kilomètres du centre-sud, grande et petite tombe près du détroit d'Ormuz et le terminal pétrolier Larak, et qui n'en commente ce samedi matin que le chapitre du débarquement où les forces commando iraniennes étaient censées repousser une invasion étrangère, font une ridicule manœuvre de diversion en cherchant à faire croire que cette invasion pourrait provenir d'une manière ou d'une autre depuis Israël. Au fait, cela fait longtemps que le monde entier, à commencer par les Yankees eux-mêmes, savent que la composante terrestre de Tzahal, qui en mai 2021 a été jusqu'à tenter de leurrer les commandants militaires du Hamas et du djihad islamique pour les faire piéger dans des tunnels souterrains de Gaza, puis les bombarder puisqu'en leur présence, les Merkava sionistes n'osaient franchir ne serait-ce qu'un seul pas en direction de Gaza par crainte d'avoir à subir de plein fouet des missiles Hornet palestiniens et d'être pulvérisés comme cela fut le cas en 2006 face au Hezbollah, ne sert strictement à rien et que même ces unités dites d'élite sont plutôt de fardeaux à traîner que de vraies forces de combat. Rien qu'en juger le nombre d'opérations commando qui s'enchaînent en Cisjordanie, puis d'une vingtaine en quelques semaines. Alors, laisser croire à un débarquement israélien sur les côtes iraniennes, comme le fait certains pressionnistes ce matin, et ce alors même que Ben Zayed, le normalisant, en a été il y a à peine 20 jours à frapper la porte de l'Iran et à demander pardon pour avoir introduit le facteur sioniste dans le golfe Persique, et surtout à rassurer le voisin iranien que les activités nocives israéliennes aux Émirats, Abu Dhabi, sera la première à en informer l'Iran, eh bien relève plutôt d'une plaisanterie. À moins qu'en hyperbolisant la phase consacrée aux exercices de débarquement, Israël soit en quête d'occulter quelque chose, ce quelque chose qui semble sortir droit ce vendredi, du commentaire particulièrement cuisant du commandant en chef de l'aérospatiale du CGRI, le général de division Hajizadeh. En commentant le tir à son missile réussi contre les cibles prédéterminées d'une salve de 16 missiles balistiques iraniens, à combustible solide de type Imad, Sejil, Zelzal et Zulfarar, tir synchronisé avec la frappe d'un essaim de 10 drones de combat, aussi ayant ciblé avec succès leur cible, le génial général iranien a dit « Le lancement synchrone est réussi des drones et des missiles au cours de la dernière phase de Grand Prophète 17 n'est pas une bonne nouvelle pour l'ennemi car le CGRI a relevé le défi de restaurer le couple drone-missile, bien que leur altitude de vol respective soit de 40 à 50 km pour les drones et de 350 à 400 km pour les missiles balistiques. L'interception des missiles balistiques relève déjà de la gageure quand on sait que l'interception se fait en grande partie à la faveur des prévisions concernant la trajectoire et le point d'impact des missiles. Or, le lancement directionnel des missiles balistiques à tête détachable, comme ce que nous venons de faire, rend impossible leur interception pour un ennemi qui a investi des milliards de dollars en radars et en missiles intercepteurs. Qu'aussi la révélation du commandant en chef de la force aérospatiale du CGRI en pleine campagne de menaces US-Israël. Cela signifie que ni la DCA américaine largement déployée dans la région et tout autour d'Israël, ni celle de l'entité elle-même, encore moins les chasseurs US-Israël qui du Yémen au Gaza tendent à jouer leur rôle de missiles intercepteurs puisque drones et missiles de la résistance l'y ont poussé, ne peuvent désormais prévoir ni la direction ni le point d'aboutissement, disons la zone visée des engins inclus dans une salve de missiles, où des lancements successifs se font de façon multidirectionnelle et où chaque engin a une vitesse qui va au-delà de celle du son. Cela veut dire aussi que cette façon de frapper débarrasserait enfin les chroniqueurs militaires israéliens de cette manie de chiffres, de cette tendance à spéculer qu'on voit à travers leurs analyses où les 3000 missiles attirés quotidiennement sur Israël par le Hezbollah le disputent aux 400 missiles palestiniens à s'abattre sur Israël et où on voit qu'ils ne comprennent rien au principe de la stratégie asymétrique de la résistance basée sur l'économie des moyens, la précision et la furtivité pour rendre la pertinence parfaite.
Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce samedi 25 décembre 2021. Les tensions restent vives entre l'Occident et la Russie ces derniers jours. Les milieux politiques et médiatiques occidentaux ont mis en garde contre une possible invasion de l'Ukraine par la Russie. En effet, la Russie a présenté ces derniers jours deux projets de proposition pour à bannir d'une part tout élargissement, toute extension de l'OTAN vers l'Est, notamment en Ukraine, et d'autre part, en effet, pour mettre fin aux activités militaires occidentales à proximité de ses frontières. Le président russe Vladimir Poutine a évoqué même une réponse militaire et tactique si les parties occidentales ne mettaient pas fin à leur politique jugée menaçante. Les négociations vont en effet se dérouler en janvier de l'année prochaine à Genève sur ce sujet et Moscou a jugé qu'il s'agirait en effet du seul moyen de juguler l'aggravation des tensions. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette escalade des tensions entre l'Occident et la Russie et bien entendu les principaux enjeux de cette crise. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Après la demande de Moscou d'ouvrir des négociations afin de calmer les tensions, Washington se dit prête à engager un dialogue diplomatique tout en prévenant que certains points soulevés par la Russie ne seraient jamais acceptés. Le secrétaire d'État Antony Blinken et le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg ont assuré que l'Alliance restait prête à mener un dialogue constructif avec la Russie selon un communiqué publié le 23 décembre côté américain après un entretien entre les deux hommes. Les dissensions avec l'Occident sur le renforcement des positions militaires de l'OTAN près de la frontière avec l'Ukraine ont conduit Moscou à mettre en avant une liste de questions sécuritaires négociables, y compris la promesse de l'OTAN de suspendre toute activité militaire en Ukraine et en Europe de l'Est. Les projets d'accord publiés au ministère russe des Affaires étrangères stipulent de limiter le déploiement de troupes, de navires de guerre et d'avions et demandent à l'OTAN d'arrêter son expansion vers la frontière de la Russie. Ils incluent également le non-déploiement de missiles à courte portée et à portée intermédiaire près des frontières de la Russie et des États-Unis. Les propositions sont intervenues après que les pays occidentaux ont lancé une campagne de propagande pour suggérer une éventuelle invasion russe de l'Ukraine dans les mois à venir et menacer la Russie de lourdes sanctions et d'un soutien accru au gouvernement de Kiev. Le président russe Vladimir Poutine et d'autres hauts responsables à Moscou ont fermement démenti les allégations de l'Occident, les qualifiant d'une excuse pour renforcer la présence de l'OTAN aux frontières occidentales de la Russie et augmenter la pression économique sur le pays. En cas d'aggravation de la situation à la frontière de l'Ukraine et de la Russie, l'OTAN a l'intention de transférer rapidement une armée de 40 000 personnes sur le territoire de l'Ukraine. Selon le site web russe Aviapro, les forces devraient être déployées dans la région de Donbass. À l'heure actuelle, les unités de la force opérationnelle interarmée sont en état d'alerte maximale et en cas de conflit entre l'Ukraine et la Russie, une armée de 40 000 militaires devrait être transférée en Ukraine dans les 120 heures.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Bruxelles avec Luc Michel, géopoliticien, et depuis Moscou avec Fabrice Beurre, expert pour l'ONG ODA. Monsieur Beurre, bonjour et merci de notre invitation. Je tiens à vous présenter nos meilleurs vœux pour et le nouvel an au nom de Monsieur Beurre.
Merci, toujours un plaisir d'être sur votre antenne.
Alors, ces dernières semaines, la tension est montée d'un cran entre la Russie et l'Occident, à sa tête bien entendu les États-Unis. Quels sont les principaux enjeux, Monsieur Beurre, de cette escalade des tensions sur fond, bien sûr, des allégations selon lesquelles la Russie aurait déployé, en effet, aurait massé des troupes près de sa frontière avec l'Ukraine et suggérant, ce que suggèrent bien entendu les milieux politiques et médiatiques occidentaux, une éventuelle invasion de l'Ukraine par la Russie.
Déjà, le constat que c'est la continuation de la politique anti-russe, mais de la part du bloc occidental, mais c'est tout à fait logique, surtout depuis... Il y a deux éléments, c'est la fin de l'URSS qui a, on va dire, un peu est montée à la tête du bloc occidental et des Américains, et qu'ils ont continué effectivement leur guerre contre la Russie alors que l'URSS n'était plus là, et bien évidemment la réponse de la Russie depuis 2014 où ils ont posé des stops, et depuis ils sont en retour sur la scène internationale, et de par le fonctionnement du logiciel occidental qui fonctionne toujours sur la confrontation dans la guerre froide, on est aujourd'hui effectivement dans une situation où ils ne comprennent pas que, évidemment, en phase 2, aujourd'hui, ils ont une Russie de retour, un bloc eurasiatique qui s'affirme, et on peut s'opposer à eux. Dans le cas précis, en avril déjà, si je ne me trompe pas, il y avait eu cette même histoire de troupes russes à la frontière ukrainienne. Je rappelle qu'à cette époque, l'armée ukrainienne était en ordre de bataille et le chef d'état-major indiquait qu'ils attendaient l'ordre du président pour entrer en guerre contre le Donbass. Alors, en guerre contre le Donbass, ça veut dire contre le peuple du Donbass. D'ailleurs, jamais en Occident, on parle du discours qu'ils emploient. Ils emploient toujours, effectivement, des occupants russes. Les occupants russes, ce n'est pas simplement, comme on retrouve en Afrique ou ailleurs, le fantasme du groupe Wagner. Non, non, ce sont les populations civiles qui sont considérées comme des occupants. Donc, il faut expulser au mieux, exterminer dans le meilleur des cas. Il y a eu des journalistes ukrainiens à Kiev en direct qui tiennent ce genre de discours. Donc, voilà l'ambiance dans laquelle on est. Maintenant, c'est tout à fait dans l'ordre du jour. On a cette Russie qui... ne se laisse plus faire depuis 2014 avec le coup d'État à Maïdan, puisque l'objectif américain, c'était de prendre Sébastopol, la Crimée. Et à ce moment-là, ils avaient effectivement, et c'est toujours leur plan, ils avaient effectivement, c'était un peu le dernier plan militaire de l'encerclement total de la Russie. Et Poutine, d'ailleurs, dans sa dernière conférence avec la presse, a indiqué cette fois-ci clairement, on ne peut pas dire qu'on ne comprend pas la position russe, que la chute de l'URSS, il y avait même au sein du gouvernement des Américains et des gens de la CIA qui étaient dans le gouvernement. Par après, malgré cette situation où les États-Unis avaient gagné la guerre froide, ils en étaient à toujours soutenir les groupes terroristes dans le Caucase. Et aujourd'hui, ils essayent d'intégrer l'Ukraine au sein de l'OTAN. qui, dans le cadre général, je vais terminer là-dessus, dans le cadre général de la politique américaine de containment de la Russie, est le dernier élément avant de retourner au plan initial, qui est la déstabilisation de la Russie pour la destruction de l'État et sa séparation en plusieurs États, puisque dans la géopolitique américaine, qui contrôle le cœur du monde, c'est l'Eurasie, et qui contrôle le cœur de l'Eurasie contrôle le monde. Ce pays et cet État qui est indépendant et souverain, c'est la Russie. Donc la politique aujourd'hui d'être contre la Chine est un élément évidemment essentiel dans le cadre américain, puisque c'est son concurrent économique, mais son concurrent géopolitique direct pour le pouvoir, son pouvoir impérialiste, c'est bien la Russie et c'est toujours un de ses objectifs centraux. On voit bien ce qui se passe tout autour de la Russie. Et donc c'est bien aujourd'hui une campagne de propagande occidentale qui essaye toujours et encore de faire passer l'agresseur, l'agresser pour l'agresseur, comme ça se passe aujourd'hui en Afrique, où on interdit aux pays africains de pouvoir passer des alliances alternatives. C'est bien ça aujourd'hui, on est dans une tectonique des plaques géopolitiques qui est en train de redéfinir le monde de demain, et les États-Unis jouent un peu leur va-tout, et leur va-tout, c'est de continuer la division de l'Europe, puisque si l'Europe est divisée, elle ne s'unira pas. Imaginez une Europe de Vladivostok jusqu'à Lisbonne unie, c'est la fin du pouvoir américain sur le monde, c'est la fin de leur modèle américain, et donc c'est la fin en eux-mêmes des États-Unis. Ils ne peuvent se le permettre, les États-Unis ne peuvent être par nature qu'impérialistes, et ils le démontrent tous les jours, où que ce soit dans le monde, et en particulier en Ukraine.
Merci infiniment pour ces précisions. Monsieur Beur, restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Monsieur Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Et nous vous souhaitons un joyeux Noël, Monsieur Michel.
Merci. Bonjour à vous et bonjour à Fabrice Veillon en Russie. Il y a quelque chose qui est vrai. Je ne vais pas redire ce qu'il vient de dire, qui est excellent. Il faut constater quelque chose, tout d'abord, c'est qu'il y a une confrontation globale entre les États-Unis, l'OTAN et la Russie qui s'exacerbe depuis de nombreux mois. La confrontation n'est pas seulement en Ukraine, elle a un deuxième front qui est en Afrique, en particulier en Centrafrique et au Mali. Il y a un train de sanctions qui concerne l'Ukraine, la Syrie et l'Afrique qui vient d'être adoptée par l'Union européenne et différents pays de l'OTAN. Il faut rappeler quelque chose, c'est que dans toutes ces affaires, l'OTAN parle d'une menace russe, parle du danger russe, mais en fait, depuis maintenant 30 ans, c'est l'OTAN et les États-Unis qui sont les agresseurs. À la chute de l'Union soviétique, l'OTAN et les États-Unis n'ont eu qu'un but, c'est de s'étendre à l'Est. Il y a eu une première vague qui a été l'inclusion dans l'Union européenne. L'Union européenne, c'est le bras politique de l'OTAN. On entre dans l'Union européenne comme antichambre avant d'entrer dans l'OTAN. On a donc fait entrer les anciens pays du pacte de Varsovie. Ensuite, il y a eu une deuxième vague d'adhésion. Ça a été des ex-républiques soviétiques, notamment les Pays-Baltes. Maintenant, l'OTAN et l'Union européenne, avec son partenariat oriental, ils tentent d'inclure le Bélarus, d'inclure la Géorgie, d'inclure l'Azerbaïdjan, d'inclure l'Arménie et d'inclure l'Ukraine, évidemment, dans cette extension. Le stade ultime, évidemment, c'est la réactivation des plans de la géopolitique nazie de Hitler entre 1933 et 1944. C'est la fragmentation et la disparition de l'État russe. Il y a des plans qui ont été publiés par la revue américaine Foreign Affairs. Foreign Affairs, c'est la principale revue géopolitique américaine. C'était la revue de Zbigniew Brzezinski et de Madeleine Albright. À la chute de l'Union soviétique, ils avaient présenté des cartes avec une fragmentation de l'ex-Union soviétique devenue Fédération de Russie en quatre petits États impuissants. C'était déjà le plan du théoricien nazi Rosenberg en Allemagne entre 1933 et 1944. La Russie, donc, il y a quelques jours, par la voix de Vladimir Poutine, a tracé un certain nombre de lignes rouges. L'une de ces lignes rouges, c'est la fin de l'extension de l'OTAN à l'Est, en particulier en Moldavie, en particulier en Géorgie, et en Ukraine, ce qui vous explique que l'un des deux points de la confrontation actuelle, c'est la frontière du Donbass entre la Russie et l'Ukraine, justement. Le Donbass devant lequel est déployée la moitié de l'armée ukrainienne avec une volonté de génocide des populations russes évidente. Zelensky, le président pro-américain ukrainien, a déclaré il y a quelques semaines dans une conférence de presse que les populations russophones du Donbass étaient des non-humains, des non-hommes. C'est exactement les théories nazies entre 1941 et 1944. La Russie ne laissera pas faire. On a oublié l'avertissement de 2008 lorsque la Géorgie a voulu annihiler les petites républiques pro-russes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. L'armée russe était déjà intervenue. Mais maintenant, on est dans une configuration beaucoup plus grave puisque l'OTAN se dit prête à intervenir avec 40 000 hommes, notamment britanniques et allemands, sur le territoire de l'Ukraine. L'Ukraine, qui, rappelons-le, n'est pas membre de l'OTAN. C'est donc une violation des lois internationales, mais également une violation des règles internes de l'OTAN. C'est toute la politique belliciste actuellement de l'administration Biden et Kamala Harris. Comment oublier, alors que la vice-présidente américaine, c'est une membre proche de la famille Soros-Kamala Harris, c'est-à-dire au cœur de la russophobie depuis 40 ans.
Merci pour ces éclairages. Monsieur Michel, restez avec nous. Monsieur Beurre, Monsieur Michel l'a rappelé, la Russie vient de tracer certaines lignes rouges et même le président Poutine a évoqué en effet une réponse militaire et technique. La question qui se pose, n'oublions pas non plus que les pourparlers vont débuter en effet début janvier à Genève. Est-ce que ce bras de fer risquerait de se solder par une confrontation ouverte ou en d'autres termes, qu'est-ce qui pourrait sortir de ces prochains pourparlers à Genève, M. Beurre?
Alors évidemment, il y a au sein de l'impérialisme américain, il y a plusieurs façons d'approche. Et il y a une approche des jusqu'aux boutistes qui disent qu'il faut employer l'arme nucléaire. Ça a été précisé plusieurs fois et par plusieurs personnalités politiques et même militaires américaines. Donc il ne faut pas prendre ça à la rigolade. Maintenant, il est évident qu'au sein de l'OTAN, il y a des divisions, puisque certains pays ont bien compris qu'ils n'avaient aucun intérêt en Ukraine. La Russie ne veut pas la confrontation. La Russie connaît très bien le prix, et trop bien le prix d'une guerre. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf et se laisser marcher sur les pieds jusqu'à temps qu'on vienne vous égorger, puisque telle est la politique américaine contre la Russie. Donc, évidemment, c'est une façon aussi pour la Russie et pour l'OTAN peut-être, ou du moins une partie de l'OTAN et une partie peut-être de l'établissement américain, de pouvoir arriver à une forme de négociation pour... donc chacun montre les muscles pour arriver à une forme de négociation. L'intérêt américain dans la question, ce ne serait pas de faire la paix avec la Russie, mais d'assurer une forme de neutralité par rapport à son conflit avec la Chine. C'est tout du moins comme ça qu'il le pense, que certains le pensent. D'autres pensent qu'il ne faut faire aucune concession à la Russie, y aller jusqu'au bout. Mais la Russie, il faut bien s'en rendre compte. L'Ukraine, ce sont des Russes, tous. Il faut arrêter, l'Ukraine, c'est un État artificiel. Il faut arrêter de penser qu'il y a une différence fondamentale. Il y a encore plus de différences fondamentales entre des Provençaux et des Bretons qu'il y en a entre des Ukrainiens qui habitent Kiev même ou qui habitent à Moscou. Il n'y en a pas. Il faut arrêter de délirer. Le nombre de familles, des gens qui ont des liens en Russie et en Ukraine, c'est presque même la norme, allons-nous dire. Donc ça, c'est un élément. La Russie ne veut pas faire la guerre contre son propre peuple ou un peuple frère, si on va employer un terme plus diplomatique. Pour autant, la Russie est prête, évidemment, pour se faire. Mais un élément qu'il faut prendre en compte, c'est l'armée ukrainienne. Vous avez effectivement le bataillon Azov, qui est un bataillon de nazis, formé par les gendarmes français. Et vous avez évidemment tous les anglo-saxons qui sont là, et même une forme d'impérialisme allemand qui refait surface. Oui, il y a quelques bataillons comme ça, d'ultranationalistes et de petits nazillons. Pour autant, la plupart de l'armée ukrainienne, ce sont des appelés. Et les Ukrainiens, majoritairement, ne sentent pas la Russie comme des agresseurs. Que va-t-il se passer s'il y a une intervention russe en Ukraine? Qui n'interviendrait que s'il y a une intervention ukrainienne contre le Donbass? Déjà, ce serait par voie aérienne avec les nouveaux missiles qu'ils ont. Donc déjà, toutes les infrastructures seraient HS en moins en quelques heures. Et si la Russie devait intervenir sur le territoire, comprenez bien que la plupart de l'armée ukrainienne, soit les gens vont déserter, soit ils ne voudront pas tirer contre les Russes, soit ils rejoindront l'armée russe. Donc il y a un jeu fait et beaucoup d'Occidentaux eux-mêmes à s'auto-intoxiquer, à croire que l'Ukraine va être leur bouclier, leur bélier contre la méchante Russie qui est toujours cette mélange de pays barbares, vous savez, ce même discours. Donc pour terminer, pour répondre à votre question, c'est chacun montre ses muscles, la Russie est prête aux négociations, ça a été dit, et ça a été dit dernièrement par Vladimir Poutine publiquement, clairement. Espérons que du côté américain, il y aura des gens sensés, mais trouver des gens sensés qui feront fi de leur politique centrale géopolitique, à savoir de contenement à la destruction de la Russie. Voilà, je pense que la raison, on va dire, l'emportera. Maintenant, c'est à quel prix? En tout cas, la Russie n'ira plus, ne fera plus marche arrière, c'est une évidence.
Merci encore. Une toute dernière question à Monsieur Michel. Monsieur Michel, il nous reste 3 minutes. Et pour vous, à quel scénario faudrait-il s'attendre? Est-ce que c'est la logique, la raison qui va l'emporter, ou bien il faudrait s'attendre à une escalade des tensions, voire à une confrontation ouverte?
La Russie ne capitulera pas, elle n'abdiquera pas. Elle a déployé il y a quelques semaines 175 000 hommes aux frontières de l'Ukraine. Et on a une indication claire et nette avec le volet africain, centrafricain et malien de cette affaire. Les Occidentaux mènent depuis un an une campagne de propagande sur le soi-disant groupe Wagner, qui, je le répète, n'existe pas. C'est une construction de la propagande occidentale pour empêcher les firmes paramilitaires russes d'intervenir en Afrique. Malgré un an de propagande, les groupes paramilitaires russes sont en train, dans ces heures-ci, par un pont aérien, d'être déployés au Mali. C'est une question ferme que la Russie ne reculera pas. Il faut comprendre quelque chose que Fabrice a développé, c'est que la Russie et l'Ukraine, c'est la même chose. L'État russe, il est né en l'an 1000. Il n'est pas né à Moscou. La première capitale de l'État russe, c'était la Rousse de Kiev, qui était d'ailleurs les Russes, les tribus vikings, varègues, alliées aux populations russes. L'État russe est né en Ukraine, il s'est ensuite transformé vers la Moscovie, qui est devenue la troisième Rome à la chute de Byzance. Il est donc impensable pour Moscou d'abandonner l'Ukraine ou d'abandonner ce territoire. Zbigniew Brzezinski, dans le Grand Échiquier, l'explique très bien. Il explique qu'avec l'Ukraine, la Russie est un empire, que sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire. Poutine et les géopoliticiens russes le savent très bien, ils ne baisseront pas la garde. C'est donc lourd d'un risque de confrontation. Moi, je ne crois pas à la guerre ouverte. Je crois que les négociations vont être dures, mais s'il le faut, bien entendu, comme Poutine l'a rappelé il y a 48 heures, la Russie interviendra militairement au grand effroi des gens européens de l'OTAN, parce que pour l'Amérique, l'Ukraine, c'est un territoire de confrontation lointain, mais pour les pays européens comme l'Allemagne particulièrement, la France bien entendu, ou les pays baltes qui sont aux frontières de la Russie, l'Ukraine, c'est le territoire de l'Europe et c'est sur le territoire de l'Europe que se déroulera une guerre. Une fois de plus, les Américains veulent faire la guerre aux Européens, ils veulent faire la guerre en Europe, veulent faire la guerre à la Russie avec la peau des Européens. Si on ne le comprend pas à Bruxelles, à Paris ou à Berlin, on est irresponsable.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, Fabrice Soir, expert pour l'ONGO depuis Moscou. Je vous remercie infiniment d'avoir été nos invités pour cette édition du débat. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci, au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. Des Marocains ont investi les rues de plusieurs villes du pays pour protester contre la normalisation avec Israël à l'occasion du premier anniversaire de l'accord de normalisation entre Rabat et Tel Aviv. Les protestataires répondaient à l'appel lancé par le Front marocain pour soutenir la Palestine et s'opposer à la normalisation. Les manifestants ont scandé des slogans contre la normalisation et exigé le retrait de Rabat de cet accord qualifié de catastrophique, tel que le Maroc est une terre libre et des Sion dégage. La Palestine résiste et les régimes négocient. Oh, Sion le maudit. La Palestine est dans les yeux. Du Maroc à la Palestine, un seul peuple et pas de non, non à la normalisation et à la soumission. Lors de ces rassemblements diffusés en direct sur les réseaux sociaux, les forces de sécurité sont intervenues pour empêcher les protestations dans certaines villes comme Rabat et Casablanca. Abdel Samad Fatih, un participant à la marche de Rabat, a déclaré « Les occupants des sionistes de la Palestine cherchent également à occuper le Maroc et à le saboter économiquement, politiquement et socialement. » Quand est-ce que le bien provient des sionistes, s'est-il interrogé, considérant que le Maroc était vendu et détruit en vertu de cet accord. Le 22 décembre 2020, le Maroc a signé un accord tripartite avec les États-Unis et Israël, prévoyant la reprise des relations entre Rabat et Tel Aviv. En contrepartie, l'administration du président à l'époque, Donald Trump, a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, revendiquée par le Polisario. Les retombées issues de l'exportation à partir de 2023 du pétrole et du gaz vont servir à accompagner le secteur productif et bâtir une économie diversifiée, a souligné le président sénégalais Macky Sall. Il a fait l'annonce lors du conseil présidentiel sur le projet de loi relatif à la répartition et l'encadrement de la gestion des recettes issus de l'exploitation des hydrocarbures. Selon M. Sall, ces ressources vont servir à accompagner, entre autres, les secteurs productifs, l'agriculture, l'élevage, l'éducation et la santé. Ce sont des ressources qui devront nous aider à bâtir une économie diversifiée, apte à répondre aux aspirations du peuple, à mieux vivre et de les léguer à un Sénégal meilleur aux générations futures, a-t-il souligné. Le président sénégalais a mis en garde les travailleurs sur les revendications salariales. Ce n'est pas parce que l'on va commencer l'exploitation du pétrole et du gaz que chacun va demander le dédoublement de son salaire. Les syndicats vont poser des préavis. Ce n'est pas du tout ce qui est prévu. Il faut bien le comprendre. Ces ressources, d'abord, ne nous appartiennent pas seules, mais l'impact que l'on en tirera va améliorer le profit économique du pays, a-t-il expliqué. Les élections libyennes doivent se dérouler dans des conditions appropriées, selon le chef de l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU, Antonino Guterres, a pris note jeudi du retard des élections en Libye et a souligné la nécessité que les scrutins se déroulent dans des conditions appropriées, a déclaré son porte-parole adjoint Farhan Haq. Le secrétaire général a pris note de l'annonce faite mercredi par la haute commission électorale nationale libyenne, selon laquelle le premier tour de l'élection présidentielle qui a été prévu le 24 décembre sera retardé, a indiqué M. Haq dans un communiqué. Les élections législatives libyennes, initialement prévues également le 24 décembre, avaient déjà été reportées à janvier 2022. Selon le communiqué, le secrétaire général félicite les 2,8 millions de Libyens qui se sont inscrits pour voter. Il est impératif que la volonté du peuple soit respectée. Les élections présidentielles et législatives doivent avoir lieu en Libye dans des conditions appropriées pour mettre fin pacifiquement à la transition politique et transférer le pouvoir aux institutions démocratiquement élues. À cet égard, M. Guterres a pris note de la recommandation de la Haute Commission électorale nationale libyenne à la Chambre des représentants et s'est félicité de son engagement continu envers le processus électoral présidentiel et parlementaire en cours, ajoute le communiqué. Plus de 20 pays africains font état de cas du variant Omicron. Selon le CDC Afrique, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, CDC Afrique, a indiqué que 22 pays africains ont jusqu'à présent signalé des cas du variant Omicron de la COVID-19. À ce jour, 22 pays africains signalent la présence du variant Omicron, a dit le directeur du CDC Afrique aux journalistes lors d'un point de presse périodique. Selon les chiffres du CDC Afrique, 6 pays africains, le Burkina Faso, le Togo, l'Égypte, le Kenya, le Maroc et l'île Maurice ont fait état de cas du variant Omicron de la COVID-19 au cours de la semaine écoulée. Nous pouvons voir clairement que le variant Omicron se propage rapidement en Afrique, a-t-il indiqué. L'Union africaine avait récemment averti que les interdictions de voyage et d'entrée liées à l'émergence du variant Omicron de la COVID-19 limitait la libre circulation des personnes et des biens en imposant un impact immédiat et significatif sur les pays africains. Bénin, le 5e Festival international de la culture, des arts et de la civilisation de Vodoum démarre le 2 janvier prochain à Porte-Novo. La 5e édition du Festival international de la culture, des arts et de la civilisation du Vodoum visant à faire découvrir la diversité culturelle et du riche patrimoine historique du Bénin se déroulera du 2 au 10 janvier prochain à Porte-Novo, selon l'agence des Chinoises, citant des organisateurs placés sous le thème général de restitution du patrimoine du Bénin, recherche en provenance, densification et transmission de savoir à Porte-Novo. Cette édition, selon les organisateurs, est une opportunité offerte aux Porte-Noviens de présenter au monde sa richesse culturelle et historique et de faire de tomber les préjugés sur les arts nègres à travers la découverte des rythmes, en fait, architecture et arts culinaires des plus exotiques aux plus contemporain. Le Festival international de Porte-Novo est le de creuset idéal pour le public participant pour découvrir et redécouvrir les arts et cultures du Bénin et des pays invités, a confié à Chinois le président du comité d'organisation de l'événement, Emmanuel Zosou. À travers cet événement, a-t-il poursuivi, la ville de Porte-Novo se verra positionnée sur le plan mondial comme porte-étendard de la culture de tout un peuple. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Thank you.